Alors pour la troisième fois, nous allons parler un peu de la prière. Cette série de trois messages sur la prière avait été initiée par ce verset de Genèse, où du temps d'Enoch, il y a très longtemps de cela, tout au commencement de l'histoire de l'humanité, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et on avait vu qu'invoquer, c'était appeler Dieu, tout simplement. C'est le mot appeler. Et on avait vu que le nom de l'Éternel, on ne savait plus tellement le prononcer maintenant, parce que l'hébreu étant une langue qui devait être vivante, était écrite uniquement avec les consonnes, et donc les voyelles, il fallait les savoir. Et le nom de l'Éternel, donc on a que les consonnes du nom, et on ne sait pas aujourd'hui le prononcer correctement. Mais Jésus-Christ est venu et il nous a révélé le Père. Et il a encouragé à prier Dieu le Père. Et nous avons parlé de cette prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, qu'il a enseigné à ses disciples à leur demande. Ce matin, je voudrais qu'on voie un autre volet de l'Éternel. Si on n'adore plus, on n'invoque plus le nom de l'Éternel, aujourd'hui, on invoque le Père et on invoque également le Fils. Et donc, pour les chrétiens, le nom de l'Éternel, c'est le Père, c'est le Fils. Et c'est l'Esprit de Dieu. Alors, le nom de Jésus. On va regarder un petit peu ce qui concerne le nom de Jésus. On va relire dans Exode 3, versets 13 à 15. Je vais faire la lecture de ce texte. C'est lorsque Moïse... On va beaucoup lire ce matin. On ne s'est pas obligé de chercher tous les textes. On regardera particulièrement les paroles de Jésus après. Lorsque Moïse était dans le désert, donc il avait fui la colère de Pharaon, et là il a fait une rencontre, la rencontre Dieu dans un buisson ardent. Vous vous souvenez de cette histoire où le buisson brûlait, mais se consumait jamais, ça l'avait attiré, s'était approché. Et là, Dieu lui a parlé. Exode chapitre 13. Qu'est-ce que vous dites ? 3 verset 13. Et donc Dieu envoie Moïse vers les enfants d'Israël pour leur annoncer la libération. Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je lui répondrai ? Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour une éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel, dont la signification est « Je suis », celui qui est présent. Maintenant, on va voyager en Palestine du temps de Jésus. Lorsqu'il était à Jérusalem, on lui a amené une fois une femme adultère, et pour savoir, la loi de Moïse nous demande de condamner une telle femme, de la lapider, de la mettre à mort. Et toi, que dis-tu ? Et là, vous vous souvenez, vous connaissez sans doute cette histoire où le Seigneur a dit que celui qui est sans péché commence par lui jeter la première pierre. Et tous ceux qui étaient là avaient la conscience chargée avec des péchés et ils se sont sentis incapables de condamner cette femme. Et Jésus donc l'a mis en liberté. Et ensuite, il a fait cette déclaration assez surprenante. On avait développé ça dans nos rencontres du dimanche après-midi autour de la Bible. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Une déclaration tonitruante. Comment un homme peut-il dire « Je suis la lumière du monde ». Ne même pas la lumière de vous qui êtes autour de moi, ce serait déjà quelque chose de bien prétentieux. Mais non, je suis la lumière du monde. Et il s'appuie pour cela sur son propre témoignage et sur le témoignage de son père. Uniquement sur ces deux personnes qui pouvaient témoigner que vraiment il était la lumière du monde. Lisons maintenant à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 8. Le 23. Vous êtes d'en haut, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis, ou plus précisément, si vous ne croyez pas que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ensuite, il y a une longue discussion entre les personnes qui étaient là et Jésus par rapport à la postérité d'Abraham. Jésus leur souligne qu'ils sont pécheurs, ils sont esclaves du péché, ils ont besoin d'être libérés, mais eux ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils sont des descendants d'Abraham et qu'ils ne sont pas esclaves du tout. Au contraire, sous-entendu que ce sont eux les personnes qui sont vraiment la crème ici-bas. On va lire maintenant du verset 51 au 58. En vérité, dit Jésus, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'il soit né, je suis. Là-dessus, prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc, à travers cette conversation, on voit tout de suite le lien entre les paroles qu'a entendues Moïse devant le buisson ardent, dans sa rencontre avec sa découverte du nom de l'Éternel, et avec ici les paroles de Jésus. Avançons maintenant dans l'évangile de Jean toujours, et on va arriver dans la chambre haute lors du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, en Jean chapitre 14. Nous sommes à un moment où Judas Iscariote est parti. Jésus va parler de toutes ces paroles quand il sera avec ses disciples dans l'intimité. Judas, celui qui devait le trahir, est sorti. Et là, Jésus peut parler librement. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de ce passage? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et donc là, Jésus annonce qu'il va répondre aux prières. Je le ferai. Il va répondre aux prières. Lui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus va répondre aux prières de ses disciples. Avançons un peu plus loin. Tout le passage qui cause du Saint-Esprit, on ne va pas l'aborder ce matin. Avançons au chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep de vigne donc, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, pendant l'hiver, là, c'est là le moment où les vignerons vont s'occuper de la vigne et bientôt vont venir couper les sarments pour qu'ils puissent donner, porter du raisin, couper tout le bois qui n'est pas utile. Et donc Jésus utilise cette image. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, je voulais souligner de ce beau passage ce matin. C'est ce « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il annonce à ses disciples donc qu'ils vont être complètement dépendants de lui. Et si nous sommes disciples de Jésus ce matin, ah ben nous sommes dépendants de Jésus. Tout ce que nous voulons produire pour Dieu, toutes les bonnes choses que nous voulons faire pour Dieu vont dépendre entièrement de Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Avançons encore un petit peu plus loin. Dans le chapitre suivant. Chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et là, justement, il leur parle de ce que Jésus, bientôt leur sera enlevé, il ne sera plus là, il va être mis à mort et ils seront tristes et ils seront malheureux. Et donc, il faut garder à l'esprit que ici, Jésus parle à ses disciples qui ne savaient pas précisément ce qui allait se passer. Ils sentaient bien que depuis que le Seigneur annonçait les persécutions, qu'il devait la mort, qu'il devait passer, il allait se passer quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là, donc dans un contexte de personnes qui étaient tristes, dans un contexte de personnes qui souffraient, que ces paroles ont été prononcées par Jésus. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné un jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, dans ce passage, on voit le changement de la tristesse en joie. Et c'est vrai qu'il y a ce contexte particulier des disciples qui étaient, qui allaient être plongés dans la tristesse parce que le Seigneur allait leur être enlevé, il allait être crucifié pendant 3 jours. Ils allaient être dans une profonde tristesse. Nous aussi, nous pouvons passer dans notre vie chrétienne par des moments de tristesse, des moments où le Seigneur semble loin, comme on dirait, on l'a perdu de vue, on nous l'a enlevé, peut-être. Et cette tristesse est changée en joie. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Recevez, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que vous puissiez passer de la tristesse à la joie. Afin que votre joie soit parfaite. Ce que vous demanderez au Père à mon nom, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Et donc, Jésus dit à ses disciples, Dieu va répondre à vos prières, mais uniquement à cause de moi. À cause du nom de Jésus, Dieu va répondre. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Les réponses aux prières qu'ont vont avoir les disciples ne vont pas reposer sur leur mérite, ne vont pas reposer sur leur personne, mais vont reposer uniquement sur la personne de Jésus-Christ, sur le nom de Jésus-Christ. Jésus va répondre aux prières. Nous sommes complètement dépendants de Jésus dans ce que nous pouvons faire, et les réponses même que Dieu va donner à nos prières, eh bien c'est à cause de Jésus. Alors on voit l'importance des prières adressées donc au nom de Jésus, et on utilise beaucoup cette expression dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on voit après la Pentecôte, les disciples qui ont reçu l'Esprit Saint qui était promis, avoir plein de courage. Quelques extraits. Acte 2, 38. Pierre qui prêche. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 3, 6. Quand il va guérir une personne, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et quand on lui demande des explications, sachez-le tous, dit Pierre, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, Jésus, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et un petit peu après, donc, le Sanhédrin se rassemble et donne une sanction. Ils défendent aux apôtres absolument de parler au nom de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Et tout ce que faisaient les apôtres, donc, c'était au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. J'avais prévu de lire ce passage. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Alors, être chrétien aujourd'hui, c'est une vie qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui représente toute chose. C'est lui la personne centrale pour les croyants du 21e siècle encore. Une vie, la Bible nous demande d'avoir une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. De lui, notre vie dépend, est entièrement dépendante. Christ, ça veut dire Messie, ouais, Et donc chrétiens, hein, Christanos, sont les disciples de Jésus, ben on les appelle les chrétiens, ceux qui sont oints, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Alors n'ayons pas honte de porter le beau nom de chrétien. Pierre dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom de chrétien. Alors, il y a beaucoup de nos chants qui parlent du nom de Jésus dans notre recueil. Je vous proposerai maintenant qu'on en choisisse une paire pour chanter. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Bon, donc on a un peu de temps. Majesté, numéro 4. Numéro 8, glorifie ton nom, nous t'adorons. Tendre Père, nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Numéro 96, oui, il y a le 10, ton nom, Seigneur, est admirable. Le 19, loué soit ton amour. Jésus, c'est le plus beau nom, le 20. Quel beau nom porte loin de l'éternel, dans les cieux et sur la terre, le 23. Je te chante une mélodie, Seigneur, qui parle également du nom de Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, le 43. Précieux Jésus, 64. 79, victoire au nom de Jésus-Christ. 88, gloire à ton nom, Jésus. 96, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. 98, nous croyons en Dieu le Père, le credo. 129, ne crains pas la tempête, au nom de Jésus, tu es délivré. 136, son nom est Jésus. 137, tournez les yeux vers le Seigneur. 144, ô Jésus, mon sauveur.